On va parler d'activité physique et de bonheur avec Yvan Deslauriers. Salut Yvan.
Bonjour Denis Martin. Alors comment l'activité physique peut nous amener à de petits et de grands bonheurs, mais d'un point de vue philosophique. Et la presse, depuis quelque temps, demande à la journaliste Marissa Grosguet de nous entraîner dans sa quête de réflexion philosophique pouvant mener au bonheur. Et cette fois-ci, elle lie cette quête de réflexion philosophique avec l'activité physique. C'est un article qui a été publié le 7 juin dans la presse. Ça s'appelle « Petit et grand bonheur, je suis, donc je suis ». On le sait, le sport nous est bénéfique, selon la science.
Oui.
Mais qu'en dit la philosophie? Ces derniers mois, lorsque sa collègue Véronique Larocque arrive au bureau, elle lui semblait encore plus de bonne humeur qu'à l'habitude. Il faut dire que c'est une personne généralement souriante avec qui il fait bon échanger. Mais depuis qu'elle s'était mise au spinning, moi je pratique le spinning régulièrement, alors j'ai pu comprendre sa réaction. Lorsqu'elle me raconte ses cours durant lesquels elle s'évade, se dépasse, se renforce et s'amuse, je constate que ma collègue a trouvé là une façon de bouger qui lui procure à la fois les endorphines, les dopamines et autres plaisants neurotransmetteurs que l'activité physique permet, mais qui lui rapporte aussi une gratification qui semble dépasser la récompense chimique. La satisfaction se prolonge après son retour à la vie en dehors du studio. C'est en pensant à elle que je me suis demandé si la philosophie s'était intéressée aux bienfaits de l'activité sportive. La science sait depuis longtemps que la santé physique et mentale est améliorée par la pratique du sport. Mais les philosophes ont-ils eux aussi compris, dans leur recherche de sens et de vérité, à quel point le mouvement de nos corps est bénéfique à l'humain? Alors, selon le philosophe français Xavier Pavie, pour de nombreux penseurs anciens et contemporains, le lien entre le corps et l'esprit est inéluctable. La discipline philosophique, qui passe par l'exercice de la pensée et de la réflexion, se fait adéquatement seulement si on considère l'exercice du corps. C'était le point de vue de Platon, par exemple, lui-même lutteur. Vous saviez ça, sûrement, Denis Martin.
Mais non, je ne savais pas ça.
Ben voilà. Platon était lutteur.
Il était lutteur. Donc, c'était seulement d'être platonique, son affaire. Hein?
Effectivement. Je muscle mon esprit par mon corps et je muscle mon corps par mon esprit, énonce Xavier Pavie. Ainsi, quand les sportifs disent qu'ils ont réussi un effort par la seule force de leur mental, j'ai fait le lien avec le film Les Boys. On comprend que c'est bien le corps qui fait, mais que l'esprit va nous traîner, ajoute-t-il. Et lorsqu'ils disent que la situation est tellement dure qu'ils ont débranché leur cerveau, évidemment, ce n'est pas possible de débrancher son cerveau, mais la force du corps permet de jouer sur l'esprit. Indissociable à bien des égards, le corps et l'esprit ont pourtant perçu de plus en plus séparément, ont pourtant été perçus de plus en plus séparément au fil des âges, avec une tendance à privilégier le second, l'esprit, au détriment du premier, le corps. Le christianisme a prêché le rejet du corps, donne en exemple Xavier Pavie. Puis, la culture occidentale a fait persister l'idée que ce qui compte le plus, c'est ce qui se passe dans la tête. Dans les dernières décennies, au contraire, un penchant à faire valoir la supériorité du corps a émergé. Pensons aux universités qui accordent des bourses d'études aux très bons sportifs ou à la glorification du sport professionnel. Ces exemples que donne M. Pavie vont à l'encontre de la quête philosophique, dit-il. De plus, ils rendent la chose possible pour une partie des gens, pour une partie des gens seulement. Pour maintenir le lien avec l'esprit, dans ce que le philosophe appelle l'exercice spirituel, le travail du corps doit mener à une pratique réflexive, ce que tous peuvent atteindre avec de l'effort, précise-t-il. Lorsque je fais de la marche, un exercice très important pour Nietzsche, cela peut activer l'esprit, souligne toujours Xavier Pavy. C'est parce que l'exercice est le moteur de la réflexion qu'il est bénéfique. Se plonger dans les sensations du travail physique confère aussi un aspect philosophique au sport, puisque l'on s'interroge sur ce que celui-ci a apporté au corps comme à l'âme et ce qu'il a fait naître dans l'esprit. On peut ainsi mieux se connaître et s'améliorer. Notre philosophe, M. Pavy, nous dit aussi que si je fais un marathon pour me prouver aux autres, ou même si je le fais seulement parce que j'aime la pratique de la course, je n'ai pas travaillé mon esprit. Mais si j'écris, je médite ou je dialogue pour revenir sur mon effort physique ensuite, je passe alors à un état réflexif. Pour la plupart des philosophes, c'est bien par la réflexion que l'on atteint le bonheur et que l'on s'épanouit. Le chemin qui passe par le corps est ainsi tout à fait valide, voire nécessaire. Mais revenons un petit peu à la prémisse de départ.
Oui.
Qu'en est-il donc de sa collègue, de son bonheur à elle, celle qui fait du spinning?
Oui.
Elle dit « Je ne sais pas quelle réflexion découle de sa pratique du spinning. Peut-être nage-t-elle tout simplement dans l'euphorie d'avoir trouvé une nouvelle activité plaisante. Peut-être aussi se plonge-t-elle plus assidûment dans un exercice permettant de lier son effort physique à une réflexion. Je ne lui ai pas encore demandé. Qu'il soit philosophique, car il peut l'être, ou non, le bonheur qu'elle retire de son sport m'indique qu'il y a tout à gagner à s'y mettre, surtout qu'en plus d'un effort bénéfique au corps et à la santé mentale, il est possible d'y trouver quelque chose de plus grand encore. Mmh. » Alors, c'était la réflexion philosophique de Marissa Grosguet autour de l'activité physique. Et je peux témoigner d'avoir trouvé à plusieurs reprises des réponses sur certaines difficultés au travail, entre autres, en courant autour d'une piste ou en faisant du spinning sur un vélo. C'est comme si l'effort physique nous permettait de voir les situations de la vie de tous les jours d'une autre façon. Et donc, j'étais très accroché par cette réflexion sur le lien entre le corps et l'esprit.
Je ne veux pas trop en ajouter parce qu'il reste pas beaucoup de temps, puis on a un autre sujet dont on veut discuter, mais moi j'avoue que lorsque je fais de la musculation, il faut que je me concentre sur ce que je fais. Je ne pense pas à autre chose que ce que je fais, mais c'est lorsque je fais du cardio. C'est incroyable comment il y a plein d'idées qui me passent par la tête et finalement, des fois, je dicte à mon téléphone, il ne faut pas que j'oublie ça, pendant que je fais du sport. Alors, on parle de cardio, puis on parle que quand on fait du cardio, on sue, et il faut s'hydrater.
Oui, tout à fait. Et ça, c'est dans Vélomag. Je passe seulement quelques instants sur cet article. Sauf qu'avec les températures qu'il fait présentement, c'est très important de se rappeler ces situations-là. Oui. Alors, on parle entre autres de quelle quantité de liquide boire et à quelle fréquence. Chaque sortie devrait commencer en étant parfaitement hydraté, car le corps ne s'adapte pas à la déshydratation. Il la subit. Alors, dans les recommandations, on dit consommer 500 ml, donc un demi-litre de liquide, 2 heures avant l'effort, et un autre demi-litre supplémentaire, environ 15 minutes avant un exercice prolongé. Donc, il faut commencer avec en ayant plein d'essence dans notre petit moteur.
Remplir la citerne.
Oui. La consommation de liquide doit se faire dès le début de la sortie, surtout par temps chaud, dans le but de minimiser le degré de déshydratation et de maximiser la biodisponibilité des liquides ingérés. Une hydratation régulière adaptée à la température extérieure et à l'intensité de l'effort physique est indispensable. il est bon de se rappeler, puis ça, je l'ai appris un peu à la dure à un moment donné, il est bon de se rappeler qu'on ne doit pas se fier au sentiment de soif pour boire, car on peut être déshydraté avant même que l'envie de boire ne se fasse sentir.
Ah bon?
Et on suggère ici de boire à toutes les 15 à 20 minutes de petites quantités de liquide, 120 à 180 millilitres, tout au long de l'effort. Et si la température extérieure est très élevée, un peu comme maintenant, augmenter l'apport hydrique et considérer la prise d'une boisson pour sportifs contenant des électrolytes ou des suppléments d'électrolytes en capsule ou en comprimé à mâcher. On pense au Gatorade de ce monde.
Ben, bon conseil.
Puis n'oubliez pas le sel. C'est vraiment bizarre, mais manger un pretzel, par exemple, à un moment donné, ça vaut la peine parce que c'est un apport en sel qu'on perd énormément dans la sueur.
Ben, on va s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup, Yvan Deslauriers. Puis après la pause, Monique Kirois qui vient nous parler, elle aussi, dans sa chronique. On va discuter des conflits qui peuvent nous rendre idiots. À tout de suite.